Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Dans 30 minutes, la Libre Antenne, nous sommes vendredi. Vous commenterez l'actualité de votre choix. Vous êtes évidemment nombreux à nous appeler du Mali pour réagir aux concertations nationales qui doivent commencer demain afin de définir la feuille de route de la transition après le coup d'État du 18 août. Toujours aussi nombreux au standard hein, et sur les réseaux sociaux pour nous interpeller sur les candidatures controversées des présidents guinéens et ivoiriens, Alpha Condé et Alassane Ouattara brigue un troisième mandat. Leurs opposants sont vent debout. Ils dénoncent une violation de la Constitution. Et puis, là aussi, voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Et en même temps, je vous comprends, hein, vu le nombre de rebondissements ces dernières semaines. Le sort de Didier Drogba. Sa candidature a été rejetée. Il brigue la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Et la FIFA a demandé l'arrêt du processus électoral. Voilà les sujets qui suscitent le plus de réactions au standard 33 9 693 693 72. Et sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Je suis ravi d'accueillir Alassane. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Après son projet d'électrification du continent, le musicien sénégalo-américain Akon a procédé au lancement officiel d'une ville nouvelle au Sénégal, baptisée Akon City.
Oui.
Alors, comment est né ce projet et quel est son objectif?
Oui, c'est vrai que le chanteur américain d'origine sénégalaise a un projet très ambitieux. Certains diront que c'est un projet un peu mégalo. Il veut construire une ville sur la petite côte au sud de Dakar. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Juan, bonjour Alassane et bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante permanente de RFI à Dakar. À terme, cette ville devrait accueillir tout de même 300 000 habitants, ce n'est pas rien. Comment est né ce projet?
Oui, c'est vrai que c'est un projet assez fou, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images du plan final. C'est une ville complètement futuriste, avec une architecture très bizarre, hein. Même Akon le dit lui-même. Des formes comme des sculptures africaines, selon le chanteur. Ça fait un peu penser, vous savez, au royaume imaginaire du Wakanda dans le film Black Panther. Alors, comment est né ce projet? C'est une idée très personnelle d'Akon. Son vrai nom, c'est Alioune Badaratiam. Il est né aux États-Unis de parents sénégalais. Lui, il explique vouloir créer une ville idéal, je cite, une ville africaine au pays de sa famille, une ville qui est présentée comme autonome avec sa propre centrale électrique, sa propre unité de gestion des déchets, une ville écologique, une ville connectée, etc. Alors il est venu ici au Sénégal en début de semaine pour poser la première pierre, vous le disiez, à Mbodiène, c'est une localité rurale à 2 heures de Dakar. Pour l'instant, je précise qu'il n'y a rien sur le site. Les travaux ne devraient commencer que début 2021, une première phase prévue en 2023 et le projet final en 2030. Donc pour les objectifs, lui, il a présenté ça comme une ville pour les jeunes, avec un quartier dédié à la technologie, un autre à l'éducation, des programmes de formation, une ville résidentielle avec, vous le disiez à terme, 300 000 habitants, donc autant que les plus importantes villes du Sénégal, une ville touristique, le projet prévoit d'ailleurs un resort avec chambres, restaurants, etc. Il y a aussi sur les plans un quartier dédié à la santé, un autre au cinéma, et à terme, il est prévu aussi que cette ville, Akon City, fonctionne avec sa propre crypto-monnaie.
Ah oui, sa propre monnaie, effectivement. C'est une ville pour les jeunes, vous nous le disiez, Charlotte, et c'est aussi une ville qui, dit-il, servira de maison de retour pour les Noirs américains et toutes les autres personnes de la diaspora qui veulent comprendre leur culture, leur origine. Alassane, je vous ai un peu coupé la parole, hein. Je crois que vous avez une autre question.
Effectivement, Juan. Ce projet de 6 milliards de dollars est-il bien accueilli par les autorités locales et sénégalaises?
Alors, c'est vrai que c'est un projet pharaonique, hein. Le coût est estimé à 6 milliards de dollars américains. Charlotte Hydrac, quelle est la position des autorités locales et nationales?
Alors, national d'abord, les autorités sénégalaises affichent leur soutien à ce projet. D'ailleurs, le ministre du Tourisme était présent lundi à la cérémonie de pose de la première pierre. Alioune Sarr a longuement félicité Akon. Il l'a remercié de venir investir au Sénégal, surtout en ce moment, au moment où les investissements sont rares à cause du coronavirus. Akon a aussi été reçu par le président Macky Sall. Il a rencontré le ministre de la Santé pour parler du volet santé de son projet. Donc, on peut dire qu'il a été accueilli les bras ouverts par les autorités. Et puis au niveau des autorités locales, eh bien le maire de la commune de Nguyen, dont dépend le site, lui, il a surtout dit son espoir que ça puisse développer cette zone rurale et surtout créer des emplois pour les jeunes.
Il y a aussi des voix beaucoup plus critiques qui se font entendre ces derniers jours.
Oui, alors sur les terres concernées d'abord, hein, où sera érigée la ville nouvelle, on parle de 55 hectares au départ, mais le site global c'est 500 hectares, et la question des indemnisations pour ceux qui exploitaient ces terres est soulevée. Ce qui n'est pas encore très clair non plus, c'est le statut de ces terres. Est-ce que c'est un bail de location? Est-ce que c'est un titre foncier? Sachant que les litiges fonciers sont récurrents au Sénégal. Autre interrogation sur le financement, Icon et son équipe expliquent que pour l'instant un tiers du budget est mobilisé par un groupe d'investisseurs, en l'occurrence KE International, mais sans plus de précision. Et puis il y a des questions aussi sur la faisabilité, sur la transparence du projet, qui sont posées notamment par l'imam Amadou Kanté, qui dénonce des zones d'ombre, qui s'interroge également sur l'impact environnemental et social. Et il demande une audition du projet par les députés à l'Assemblée.
À suivre donc. En tout cas, les travaux devraient commencer au début de l'année prochaine. Alassane, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr. Merci, Juan. Merci à Charlotte.
Charlotte Hydrac, notre correspondante permanente à Dakar. Bonne journée à toutes les deux. À tous les deux. Tous les deux, vous êtes à Dakar, hein, où il est 8h et bientôt 17 minutes. On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Bonjour, Davy.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Comment allez-vous, Davy?
Ça va très bien.
Ça va bien. Vous avez des questions sur l'ouverture cette semaine du procès des attaques terroristes de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, attaque contre une policière également à Montrouge dans la banlieue parisienne.
Effectivement, le procès s'est ouvert mardi à Paris. Qui sont les personnes accusées et que leur reproche-t-on puisque les auteurs des attentats sont morts? Comment ont-elles été identifiées?
Allez, bonne question que vous posez. Les auteurs de ces tueries, effectivement, ont été tués, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Vous suivez pour RFI ce procès qui va durer au moins jusqu'au 10 novembre. Procès qui se déroule devant la cour d'assises spéciale. 14 personnes sont jugées. Les auteurs de ces tueries sont absentes, hein, puisqu'elles ont été tuées. Qui sont donc ces 14 personnes ?
Oui, vous l'avez dit, il n'y a pas les auteurs et il n'y a pas non plus les donneurs d'ordre. Il y a donc 14 personnes qui sont poursuivies, 13 hommes, une femme. Ils ont entre 30 et 68 ans. Alors, ils sont poursuivis essentiellement pour avoir importé un soutien logistique aux trois terroristes. Ces 14 personnes, elles présentent un profil différent, mais elles ont un point commun. C'est tous des petits délinquants, déjà condamnés plusieurs fois, mais jamais impliqués dans des affaires de terrorisme. Le principal accusé, ce serait le bras droit d'Amélie Koulibaly, selon les enquêteurs. Il s'appelle Ali Rapolat et lui, il aurait participé eh bien, à tous les stades des préparatifs des attaques. Il est plus particulièrement soupçonné d'avoir aidé les trois terroristes à trouver des armes et juste après les attentats, eh bien, il aurait tenté à plusieurs reprises de quitter la France pour se rendre en Syrie. Il y a aussi un autre prévenu qui serait le mentor religieux d'Amédi Koulibaly. Il l'aurait mis en contact avec le commanditaire de l'attentat et c'est lui qui aurait rédigé son serment d'allégeance à l'État islamique. Donc ça, c'est les deux principaux, on va dire. Et puis, plus généralement, les autres, eh bien, ils sont soupçonnés d'avoir aidé les terroristes à se procurer des armes, de les avoir aidés à les transporter ou bien de leur avoir fourni de l'argent pour acheter justement ces armes.
Il faut préciser tout de même que tous les accusés ne sont pas physiquement présents au tribunal.
Oui, vous avez raison. Il y a trois absents. Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly, et les frères Belloucine. Ils sont en fuite, a expliqué le président du tribunal mardi. Ils seront donc jugés par défaut. Ils ont quitté la France, alors juste avant les attentats, quelques jours avant les attentats, direction la Syrie. Les deux hommes seraient morts depuis. La jeune femme, elle serait peut-être encore en vie. Toutes ces informations, elles sont pas confirmées. Et en tout cas, ces trois personnages qui manquent, eh bien, ce sont trois personnages clés et qui ne pourront pas s'expliquer.
Pour aller un peu plus loin que les questions posées par Davy, concrètement, que risque, quelle peine encourent ces 14 personnes, ces 14 accusés ?
Alors, deux d'entre eux sont poursuivis pour complicité de crimes terroristes et ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Et les autres, ils risquent entre 10 à 20 ans de prison.
20 ans de prison, des peines quand même qui sont très lourdes pour des personnes qui finalement ne sont pas les responsables directs de ces attaques.
Oui, ce sont les peines les plus lourdes hein, qui ont été retenues à l'issue de l'instruction, des peines lourdes pour ceux que certains qualifient de petites mains, de second couteau. Hein, ça, c'est surtout leurs avocats qui tentent de minimiser leur rôle et surtout qui réfutent toute implication dans les actes terroristes. Ça, évidemment, c'est la justice hein, qui va devoir trancher. Ce sont des questions difficiles. Les accusés, eh bien, est-ce qu'ils étaient au courant des projets d'attentat des assassins? Et puis, à partir de quel degré d'implication on est considéré vraiment comme complice d'un attentat? C'est vrai que ceux qui comparaissent, ce ne sont pas les auteurs directs, mais en tout cas, ça reste important de les juger. Hein. Lassana Batili, vous savez, ce franco-malien qui avait aidé les otages de l'hypercacher à se cacher, ben, mardi, me disait que lui, en fait, il fait pas la différence entre les tueurs et ceux qui sont présents au tribunal. Il m'a dit, je les mets tous dans le même sac. Et son avocate a acquiescé. Elle a expliqué que sans eux, les terroristes, eh bien, ils n'auraient pas pu commettre leur crime.
David nous demandait également comment toutes ces personnes, ces 14 accusés, ont été identifiés.
Alors pour certains, ça a été très simple. On a retrouvé leur ADN sur les armes ou sur un gant, par exemple, que portait Amedi Coulibaly dans l'hypercacher. Il y a aussi une liste qui a été retrouvée avec la liste de toutes les armes. Et donc voilà, on a pu identifier l'écriture de l'un des accusés. Pour d'autres, c'est les relevés de leur téléphone portable qui ont fait apparaître de multiples échanges avec les attentats. Et puis pour certains, ça a été plus compliqué. Là, c'est tout le travail de l'enquête qui a duré 3 ans et qui a fait apparaître des liens entre ces personnes et les tueurs, mais tout n'est pas encore vraiment très clair et c'est justement le rôle du procès d'essayer d'éclairer toutes ces zones d'ombre.
Procès jusqu'au 10 novembre devant la cour d'assises spéciale. David, êtes-vous satisfait de nos explications?
Absolument, je suis satisfait de tout ce qu'elle a expliqué à l'antenne. Merci beaucoup.
Merci à Marine de la Moissonnière qui suit pour RFI ce procès historique. On repasse au standard avec des questions sur la Turquie. La Turquie qui, pour l'instant, se moque des menaces de l'Union européenne. On va en parler puisque ça intéresse Charles qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Lubumbashi, donc en RDC.
Oui, effectivement, je suis à Lubumbashi.
Allez-y, on vous écoute.
Depuis plusieurs mois, la Turquie mène les recherches des hydrocarbures dans la Méditerranée. Malgré l'expression de l'IE, le pays persiste dans ses extractions. Je voudrais alors savoir comment se fait-il que, malgré les sanctions et l'expression de l'IE, la Turquie continue avec ses recherches?
Effectivement, l'Union européenne qui s'apprête, dit-on, à adopter de nouvelles sanctions à l'encontre de la Turquie. Le sujet sera discuté dans quelques semaines, le 24 septembre, lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Bonjour Nicolas Monceau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de prendre quelques minutes pour répondre à Charles. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la Turquie. Charles a planté le décor succinctement. On va essayer d'être le plus pédagogue possible. Le sujet est bouillant. La Turquie et la Grèce se disputent le partage de réserves gazières en Méditerranée. D'ailleurs, en ce moment, il y a plusieurs navires turcs qui prospectent les fonds marins à la recherche de gaz. La Grèce dénonce le comportement de la Turquie. L'Europe menace de sanctionner Ankara et Ankara continue ses prospections.
Oui, Ankara continue ses prospections et on peut distinguer deux raisons principales à la poursuite de ces recherches d'hydrocarbures dans la Méditerranée orientale. Déjà, il faut rappeler que on a découvert des gisements d'hydrocarbures extrêmement importants dans cette partie de la Méditerranée depuis une dizaine d'années. Et donc, cela exacerbe bien entendu les tensions entre les pays riverains et en particulier entre la Grèce et la Turquie. Mais surtout, ces gisements d'hydrocarbures, en particulier le gaz, est très important pour les intérêts énergétiques de la Turquie, pour sa sécurité énergétique ou encore son indépendance. C'est un enjeu vital pour ce pays et il faut rappeler ici que la Turquie a une dépendance énergétique très forte, en particulier à l'égard de pays comme la Russie ou l'Iran, en ce qui concerne le gaz ou le pétrole, et par conséquent l'accès à ces gisements serait, encore une fois, un enjeu vital pour la sécurité énergétique de la Turquie. Ensuite, il y a une autre raison aussi qui explique pourquoi la Turquie continue ses explorations malgré les appels de l'Union européenne. Eh bien, c'est le fait que la Turquie conteste les la délimitation des zones maritimes en Méditerranée orientale, et en particulier entre la Grèce et la Turquie. Alors, il faut rappeler que c'est un héritage de l'histoire, hein. Il y a un contentieux historique entre ces deux pays, notamment sur la délimitation des zones maritimes. La Turquie revendique un accès donc plus large aux eaux territoriales, et elle entend renégocier la délimitation de ces eaux territoriales en imposant en quelque sorte un rapport de force. Donc, on peut parler d'un conflit de souveraineté dans la mer Méditerranée, et tout l'enjeu des tensions que l'on observe et de la poursuite de ces recherches par la Turquie, c'est la question du partage des zones maritimes et des hydrocarbures en Méditerranée orientale.
Il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'en ce moment, la Grèce et la Turquie ont chacune déployé des navires de guerre. C'est-à-dire que ça va, il y a la prospection gazière et en même temps il y a cette pression effectuée par ces deux pays en déployant des navires de guerre. On a vu la France passer à l'action également courant août. Ça prend des proportions importantes.
Oui, on peut parler d'une escalade dans cette région de la Méditerranée orientale. Effectivement, la France a déployé des avions de chasse, Rafale, des navires également, pour soutenir la Grèce. Il y a également eu des exercices militaires conjoints entre ces deux pays, également avec Chypre. Il y avait eu également des déploiements militaires il y a quelques mois autour de Chypre. Donc effectivement, il y a des tensions qui se cristallisent, une escalade qui se développe dans cette région. Derrière tout cela, l'enjeu aussi, c'est la position défendue par la France, c'est la question du droit international et de son respect. La position française, elle est très claire sur le sujet. La Méditerranée est un bien commun où le respect du droit international doit être la règle. Et donc, ce déploiement militaire a aussi pour objectif de rappeler à la Turquie la nécessité de respecter le droit international face à ces recherches d'hydrocarbures qu'il faut rappeler sont les navires turcs escortés par des navires militaires.
Effectivement. Charles a encore des questions à vous poser, Nicolas Monceau. Charles.
D'accord. Quels sont les moyens que l'UE et la Grèce peuvent activer pour parvenir à un consensus avec les Turcs?
Alors j'imagine, Nicolas Monceau, qu'il y a encore une place pour le dialogue, pour essayer de trouver une solution, un compromis, un consensus.
En tout cas, c'est la position qui est adoptée par l'Union européenne dans son ensemble ces derniers mois. On verra ce qui se produira effectivement lors du Conseil européen du 24 septembre que vous avez rappelé, et si l'Union européenne va adopter alors des sanctions. Mais l'Union européenne a jusqu'à présent, en particulier durant l'été, toujours appelé au dialogue et à la désescalade entre la Grèce et la Turquie. Il n'y a en fait que trois pays, la Grèce, Chypre et la France, qui ont appelé à des sanctions contre la Turquie. Ceci étant dit, il est apparu que l'Union européenne était très divisée sur le sujet, donc il n'y a pas de consensus entre les États membres. Et de fait, en juillet notamment, aucune sanction n'a été adoptée contre la Turquie par le dernier Conseil européen des affaires étrangères. La plupart des États membres de l'Union européenne, en fait, ont préféré préserver des relations avec Ankara et aussi sauvegarder un accord jugé très important sur les migrants qui avait été adopté en 2016. Donc pour gérer la crise migratoire auquel avait été confrontée l'Europe.
Voilà.
Et par conséquent, donc les sanctions seront peut-être adoptées le 24 septembre.
À suivre donc, évidemment, et parmi les sanctions, on parle notamment la possibilité d'interdire l'accès à des navires turcs dans les ports européens, des sanctions visant également l'économie turque, mais aussi des personnes qui seraient directement impliquées dans les forages. Charles, merci infiniment de nous avoir appelés de Lubumbashi. Continuez évidemment à écouter RFI. Nicolas Monceau, merci, on a été complet dans les explications. On avait prévu d'autres questions ce matin, on était gourmand dans la préparation de l'émission, voilà, on est un peu bavard, c'est comme ça. Mamadou à Abidjan, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle lundi, c'est promis, ou mardi. Tout dépendra évidemment de la disponibilité de nos confrères ici à RFI. D'autres questions à la rédaction? Eh bien lundi matin, d'ici là, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions par sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, le compte WhatsApp, et le standard reste ouvert. Il reste ouvert d'autant qu'on a envie de vous entendre juste après le journal sur l'actualité qui ne vous laisse pas indifférent, l'actualité internationale, française, africaine. La libre antenne, ce sera juste après le journal.